On va aller dans un mot de prière, puis on écoute la lecture de la parole de Dieu. Père éternel, je veux te remercier premièrement pour le privilège qui m'a été fait d'étudier cette lettre de 1 Jean encore une fois, Seigneur. Seigneur, Jean a un don de nous ramener à l'essentiel et de nous montrer que l'essentiel est le cœur de toute la vie chrétienne. Qu'on n'a pas besoin de grand-chose de plus, sinon rien de plus que l'Évangile de Jésus-Christ. Et Père, je te prie de venir déposer cette vérité-là dans nos cœurs, dans notre intelligence, afin que nous apprenions, Seigneur, à entrer dans cette vie-là, à vivre cette vérité-là tous les jours de nos vies, Seigneur, sans chercher ailleurs un autre message, une autre révélation, une autre patente qui viendrait nous donner une vie plus grande que celle que Christ nous a donnée. Viens déposer ça dans nos cœurs ce matin, Seigneur. Viens rassurer nos cœurs en toi, Seigneur. Et Père, j'aimerais te prier pour toute personne qui est ici au milieu de nous ce matin et qui ne connaîtrait pas le Fils de Dieu personnellement. Je demande de venir ouvrir les yeux de son cœur, Seigneur. Éclairer les yeux de son cœur. Afin que l'Évangile de Jésus-Christ vienne prendre naissance dans son cœur ce matin. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen. On va écouter ensemble la parole de Dieu.
Le passage biblique de ce matin est tiré du livre 1 Jean, au chapitre 5, versets 1 à 21, dans la nouvelle édition de Genève. Pardon. 1 Jean, chapitre 5, versets 1 à 21. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de lui. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles, car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang, non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang, et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Car il y en a trois qui rendent témoignage, l'Esprit, l'eau et le sang, et les trois sont d'accord. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. Car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée, quelle qu'elle soit. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie. Et Dieu donnera la vie à ce frère. Il la donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort. Ce n'est pas pour ce péché-là que je dis de prier. Toute iniquité est un péché, et il y a tel péché qui ne mène pas à la mort. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même, et le malin ne le touche pas. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles.
Merci Julie. Tout un passage, hein? Vous le comprenez? Vous avez tout catché? Tout un texte. Mais je vais vous demander ce matin de vous concentrer puis de garder comme idée principale le but de la lettre de Jean. D'accord? On va aller voir quelques passages qui sont difficiles dans ce chapitre-là, mais retenez principalement le but de la lettre de Jean. Donc, le but de toute sa lettre, des 5 chapitres, sont contenus dans un seul verset, verset 13. « Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. » On va régler tout de suite une question. Ma question piège, quand est-ce que ça commence la vie éternelle? Je vous lis le verset, parce que je vois plein de points d'interrogation dans vos yeux. « Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous aurez la vie éternelle, que vous avez la vie éternelle. » Que vous avez la vie éternelle. Vous savez, lorsqu'on pense à la spiritualité, lorsqu'on pense à la Bible, lorsqu'on pense à Dieu, pour bien des gens, toutes ces choses-là, c'est bon pour ceux qui ont comme une espèce d'antenne spirituelle. Tu sais, c'est des gens qui vivent sur la terre, mais pas tout à fait. Ils ont toujours comme des explications flyées, ou c'est comme si ils vivent toujours dans « Oui, mais tu sais, il y a un esprit, Dieu est là, puis tu sais, il va avoir l'éternité. » Puis pour bien des gens, la vie éternelle, c'est comme quelque chose de « OK, c'est cool, j'ai cru en Jésus, je sais qu'est-ce qui va se passer pour mon éternité. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Qu'est-ce que je fais maintenant? » J'ai réglé la grande question. Quand je vais mourir, c'est safe, je m'en vais en auto tantôt, accident, tout est cool. J'ai comme mon assurance vie éternelle. Tout est réglé, ça c'est beau. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Sur quoi je construis? Je m'en vais où? Ça me sert à quoi tout ça? Et c'est vraiment, vraiment se méprendre sur ce que c'est la vie éternelle. Jésus a dit que celui qui croit en lui, des fleuves de vie couleraient de son sein. La vie éternelle, selon Jean, dans son expérience à lui, ça commence au moment où tu crois. Et ça produit une vie nouvelle en toi qui va se poursuivre jusque dans l'éternité. À travers l'œuvre de son esprit en nous, par la nouvelle naissance, je suis déjà entré dans la vie éternelle. Et c'est ça qui amène Jean à dire, vous n'avez pas besoin d'aller chercher ailleurs. Vous n'avez pas besoin de chercher quelque chose de plus. Vous avez déjà tout, puisque vous avez la vie éternelle. Pas plus que vous l'aurez si vous découvrez une nouvelle vérité. Rappelez-vous le contexte de Jean, c'était quoi? Le contexte de cette lettre-là? Des personnes avaient été instruites dans l'Évangile, avaient cru en Jésus-Christ, puis à un certain moment donné, ils étaient partis sur une frippe. Il avait décidé qu'il manquait quelque chose à ce que les apôtres avaient apporté comme message. Il manquait une connaissance, il manquait une gnose spéciale. C'est le germe, c'est le début d'une fausse doctrine, d'une hérésie qui va se structurer dans le siècle qui va suivre, qu'on va appeler le gnosticisme. On assiste à quelque chose qui ressemble à ça. On a vu ça dans les premiers messages de la série, les premiers exposés. Allez les réécouter juste pour maîtriser ça. Mais ça, c'est le contexte. Des gens avaient entendu parler de Jésus, avaient reçu le message de l'Évangile, avaient cru selon eux, puis à un certain moment donné, avaient dit « Non, 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 il nous manque quelque chose. Il nous manque une autre expérience, il nous manque une autre connaissance. » Puis certains d'entre eux ont commencé à vivre quelque chose même qu'ils n'arrivaient pas trop à expliquer, qu'ils n'arrivaient pas trop à énoncer, mais quelque chose de profond en eux qui les amenait à questionner des choses que les apôtres avaient enseignées sur Jésus-Christ. Par exemple, est-ce que Dieu le Fils s'est vraiment incarné? Est-ce qu'il a vraiment vécu parmi les hommes comme un vrai homme? Est-ce que le Fils de Dieu pourrait vraiment devenir un homme? Sûrement pas. La matière est trop méprisable. Le corps, ça meurt. Ça doit pas être le cas. Dieu ne peut pas vraiment s'associer aussi intimement. Au contraire, devenir chrétien, c'est accéder au spirituel et quitter le matériel. Et commencer à enseigner ça. C'est devenir spirituel puis quitter complètement la matière. Et ça, c'est important, parce que ça les amène à dire que Dieu le Fils de Dieu, c'est pas véritablement incarné. S'il c'est pas véritablement incarné, il n'est pas vraiment mort sur la croix. S'il n'est pas vraiment mort sur la croix, l'apôtre Paul nous dit, son sacrifice n'est pas valable. Votre salut est vain. Vous n'avez pas la vie éternelle. Bon, ça c'est des grands philosophes, des grands hérétiques même, qui partent, puis leurs insatisfactions envers la foi chrétienne devient super élaborée, puis ils partent des sectes, puis toutes sortes de choses. On a parlé de sectes chrétiennes, des mouvements qui ont quitté le christianisme historique pour créer des mouvements qui enseignent une partie de ce que la Bible enseigne, mais d'autres révélations qui ont ajouté aussi. Eux autres, ils ont d'autres livres en plus de la Bible. La Bible n'est pas suffisante. Ils ont ajouté d'autres révélations qu'ils ont reçues de Dieu. Alors ça, c'est les plus flyés. Mais concrètement, quotidiennement, pour beaucoup de chrétiens qui restent dans l'Église, qui ne dérapent pas dans ce sens-là, la vie éternelle, c'est quelque chose de très inconcret, qui est bon pour la vie après la mort, qui ne change pas vraiment mon quotidien, puis je cherche comment changer mon quotidien, alors que l'apôtre Jean me dit ici, « Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. » Ce qu'on va voir ensemble ce matin, c'est que celui qui croit en ce Jésus-là, que la Bible nous présente, pas dans un autre Jésus, pas d'ajout, pas de retrait, tel qu'il est présenté, pas une nouvelle révélation. Celui qui croit dans ce Jésus que la Bible nous présente vit une vie éternellement riche en Dieu. Pas vivra, vit une vie éternellement riche en Dieu. Il n'a pas besoin de quoi que ce soit de plus. Celui qui croit au nom du Fils de Dieu a la vie éternelle. Qu'est-ce que ça veut dire pour Jean croire au nom du Fils de Dieu? J'ai dit, c'est celui qui croit au Jésus que la Bible nous révèle. Qu'est-ce que ça veut dire croire au nom du Fils de Dieu? Et premièrement, ça veut dire croire le témoignage que la Bible nous rend sur Jésus. Puis là, Jean, c'est probablement le passage le plus difficile. Il nous dit qu'il y en a trois qui rendent témoignage. Regardez verset 6, 7. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec l'eau et le sang. Non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage parce que l'Esprit est la vérité. Ensuite, il va nous dire, donc il y a trois témoignages, l'Esprit, l'eau et le sang. Il y en a trois qui rendent témoignage, je m'excuse. Puis ensuite, il va nous parler du témoignage de Dieu. Je pense que c'est le même témoignage que l'Esprit. Parce que lorsqu'il décrit, c'est l'œuvre de l'Esprit dans nos cœurs. Super difficile de comprendre de quoi il parle, l'eau, le sang. Bon, le sang, pas pire. Tu sais, probablement la croix. Ça rend témoignage. Christ est mort sur la croix, c'est le seul. Trouvez-moi un prophète qui est venu mourir pour vos péchés sur une croix. Vous n'en trouverez pas à part Jésus-Christ, dans aucune religion à part Jésus-Christ. Ça, c'est tout un témoignage. Le témoignage de l'Esprit est assez clair aussi dans ce qui suit au verset 9 et 10, mais particulièrement au verset 11. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle. Au verset 10, il dit « Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même ». Donc, je sais dans mon cœur, on l'a vu plus tôt dans Jean, je sais dans mon cœur que je suis un enfant de Dieu parce que j'ai cette conviction profonde dans mon cœur que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il est le Sauveur des hommes. J'ai cette conviction-là. C'est le témoignage que l'Esprit est en train de rendre en moi. C'est le témoignage que Dieu a rendu à son Fils aussi. Que ce soit publiquement son baptême, que ce soit en le ressuscitant d'entre les morts, que ce soit dans nos cœurs. Alors, il reste l'eau. C'est quoi cette affaire-là, l'eau? Il y a toutes sortes d'hypothèses, d'accord? Je vais vous dire ce que je comprends du passage. C'est le genre de passage où ça vous tente d'avoir une autre interprétation que moi, je peux vivre avec ça. Si vous me dites que vous voulez discuter à savoir si Jésus-Christ est Dieu le Fils, je ne suis pas tellement négociable là-dessus, d'accord? Mais sur ça, je pense que c'est difficile. Bien honnêtement, c'est vraiment difficile d'être au clair. Puis des fois, Jean est comme ça. Jean a comme un esprit de synthèse où finalement, sa synthèse, à un moment donné, tu dis... OK, tu as vraiment synthétisé. J'aurais aimé ça que tu développes un peu. Quand tu lis Paul, c'est le contraire. Tu sais, t'aimerais qu'il synthétise parce que ses phrases peuvent être comme 14 lignes. Quand tu arrives dans Jean, c'est complètement le contraire. Tu sais, le T-shirt, il a vraiment rapetissé dans sa chose, là. Ça serait le fun de pouvoir voir les fibres un petit peu, OK? Fait que c'est quoi cette eau-là? Bon, bien, il y a différentes interprétations. On trouve dans l'Ancien Testament l'image de l'eau qui est la parole de Dieu. Donc, Jésus, c'est la parole incarnée. Est-ce que ça serait ça? L'eau, ce serait la parole qui vient nous nourrir. Je ne crois pas que c'est ça. Une autre possibilité, ce serait, est-ce que c'est le fait qu'il s'est incarné? Donc, il est devenu, il est né comme un être humain avec une matière réelle. Je ne pense pas que c'est ça non plus, parce que regardez ce qu'il dit au verset 6. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec l'eau et du sang, avec de l'eau et du sang. Non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Lorsqu'il dit non avec l'eau seulement, je m'excuse pour ceux qui ne traitent pas technique, là. Non avec l'eau seulement, hein? Donc ça voulait dire que ceux qui n'étaient pas d'accord avec Jean acceptaient qu'il était venu avec l'eau. Mais au début de Jean, il dit, ceux qui n'étaient pas d'accord avec Jean disaient qu'il ne s'était pas incarné. Donc l'eau, ça ne représente pas son incarnation. Il me reste le baptême. Peut-être que c'est le baptême de Jésus qui est représenté ici. Deux témoignages. Il s'est fait baptiser lui-même pour devenir, être un modèle de ce que c'est un enfant de Dieu qui marche dans les voies de Dieu. Lui-même s'est soumis au Père, s'est fait baptiser par Jean-Baptiste. Puis après ça, il est mort sur la croix. Deux témoignages puissants. Son identification avec nous par son baptême, sa crucifixion à la croix pour notre salut. Ou encore, c'est son ministère à lui où les gens se faisaient baptiser du baptême d'eau. Puis il disait aux gens, si vous voulez être sauvés, vous devez vous faire baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Vous devez croire en moi si vous voulez être sauvés. J'ai l'impression que c'est celui-là. D'accord? Je sais que j'ai perdu à peu près 90 % de la salle, fait que je ne veux pas rester plus longtemps là-dessus. Mon impression, lorsque je lis tous les commentateurs, puis lorsque je regarde les possibilités, je crois qu'il s'agit du baptême d'eau, mais celui qui était dans son ministère à lui, où lui-même a rendu ce témoignage-là. Repentez-vous, faites-vous baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, parce que c'est moi le Sauveur. Puis le deuxième élément, c'est sa mort sur la croix, son sang versé. D'accord? Le point de Jean, c'est que celui qui croit au Fils croit le témoignage que la parole rend, que les Saintes Écritures rendent de Jésus-Christ. Donc, je ne vais pas essayer de construire un autre Christ que celui qui m'est révélé ici. Ça, c'est super important. Jean dit au verset 9, « Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. » Donc, la question ultime que vous devez vous poser, c'est ce que vous croyez sur Jésus. Puis vous croyez, tout le monde croit quelque chose sur Jésus. Si vous êtes ici ce matin, vous dites, « Ben, moi, je ne crois pas en lui. » Voilà, c'est ça que tu crois. Tu crois que ce n'est pas lui. Tu crois qu'il n'est pas important. Tu crois que ce n'est peut-être pas le Sauveur. Mais tu crois quelque chose. Tu ne crois pas en lui, donc tu crois que non, tu n'as pas besoin de lui. Tout le monde croit quelque chose. Et le point de Jean, c'est, est-ce que ce que tu crois sur Jésus-Christ, c'est le témoignage d'un homme ou c'est le témoignage que Dieu rend envers Jésus? Le témoignage de Dieu est plus important que le témoignage d'un homme. Je vais aller plus loin que ça, d'accord? On vit à une époque où on est après la Renaissance, c'est... L'être humain qui réalise qu'il est capable de réfléchir, puis il dit, je suis tellement beau quand je réfléchis, je suis tellement grand quand je réfléchis, je suis tellement, j'aime ça me regarder réfléchir, que tout ce que je comprends, c'est vrai, puis ce que je ne comprends pas, ce n'est pas vrai. Ça, c'est ton témoignage à toi, sur ce que tu crois, puis sur ce que tu comprends. Alors, je vais plus loin, je pense que Jean est en train de me dire, ton témoignage à toi sur Jésus est moins valable que celui de Dieu. Maintenant, toute proportion gardée, si tu crois, comme bien des gens aujourd'hui, que tu es le centre de l'univers, ben, peut-être que tu penses que tu es Dieu. Donc, ton témoignage vaut le témoignage de Dieu. Mais lorsqu'on lit les Écritures, on apprend à dire, écoute, avant moi, il y avait des êtres humains, après moi, il va en avoir d'autres, je ne suis vraiment pas le centre de l'univers, je suis une petite poussière qui passe avec beaucoup d'intelligence que Dieu m'a donnée, puis... Je vais dans les Écritures pour comprendre les choses avec l'intelligence que Dieu m'a donnée. Alors, quel témoignage crois-tu? Celui de Dieu ou celui des hommes? Le témoignage de Dieu est plus grand. Croire au nom du Fils de Dieu, c'est croire dans le témoignage que Dieu a rendu de son Fils, que sa parole a rendu de son Fils. Croire que Jésus est le Fils de Dieu, c'est croire que Jésus est le Sauveur du monde. Alors, si tu n'es pas familier avec le terme « Christ », qui est répété constamment, au Québec, mais aussi dans la parole de Dieu, d'accord? Si tu ne sais pas ce que ça veut dire, Christ, ça veut dire sauveur, Messie. C'est ça que ça veut dire. Fait que, tu sais, quand les Québécois, ils disent mon petit, ils sont en train de dire mon petit sauveur, mon petit Messie. Ah, mon Messie, toi. C'est ça qu'ils sont en train de dire. C'est assez ridicule. C'est un Français qui me l'a fait remarquer tout à l'heure. Merci, Charles. Parce qu'ils n'ont pas les mêmes mots que nous là-bas, tu sais, pour se fâcher. Jésus est le Christ. Il est le sauveur du monde. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a pas d'autre à chercher. Il n'y a pas d'autre où aller. Je n'ai pas besoin d'ajouter à lui. Ceux qui avaient quitté l'Église avait besoin d'ajouter autre chose que ce que Jésus avait fait. Il avait besoin de vivre une expérience personnelle, mystique avec Dieu qui ne s'explique pas avec des mots, une espèce de transe où ils ont reçu une révélation qu'ils ne peuvent même pas communiquer. Il faut vivre cette expérience-là. Puis sans ça, tu n'avais pas vraiment le salut. Jésus est le sauveur des hommes parce que Jésus est le seul qui est venu mourir sur la croix pour nos péchés, qui est ressuscité d'entre les morts. Vous n'en trouverez pas d'autres ailleurs. Vous dites, je ne sais pas, je veux continuer à chercher, je veux explorer. Vas-y, tu veux lire le Coran, lis le Coran, tu veux lire la Bhagavad Gita, va la lire, pas de problème, va lire toutes ces affaires-là, cherche la vérité. Cherche-le. Chaque fois que j'ai l'occasion de discuter avec quelqu'un qui veut questionner la validité du christianisme, quand j'y pense, je lui dis, écoute, si tu peux me prouver que je suis dans l'erreur, tu vas me rendre le plus grand des services. Parce que Jésus m'a dit qu'il était la vérité, puis j'ai cru qu'il était la vérité. Ma quête à moi, c'est la vérité. Alors, si Jésus n'est pas la vérité, je veux le savoir. Rends-moi service. Je n'ai pas besoin d'avoir peur de questionner ces choses-là. Mais j'ai su et j'ai connu. Parce que j'ai regardé ailleurs, puis je suis revenu aux Écritures, que Jésus-Christ est le sauveur des hommes. Celui qui croit au nom du Fils de Dieu croit que Jésus est sauveur des hommes. Celui qui croit au nom du Fils de Dieu croit que Jésus est le Fils de Dieu. D'une manière seule et unique, tous les êtres humains sur la terre sont des enfants de Dieu, des créatures de Dieu. Puis là, je lis les Écritures, puis tous ceux qui ont cru en Jésus-Christ sont particulièrement des enfants de Dieu parce qu'ils sont réconciliés avec Dieu. C'est ce que les Écritures nous enseignent. Mais Jésus, d'une manière unique qui lui est propre à lui, est le Fils de Dieu. Parce qu'il était auprès du Père, nous dit Jean dans son évangile, puis dans sa lettre, puis il s'est incarné, il est venu vers nous. Et donc, d'une manière unique, incomparable, il est le Fils de Dieu, il est Dieu le Fils. Si vous voulez un autre passage qui est difficile, sur lequel je n'aurai pas le temps de m'étendre ce matin, mais en même temps, je vous l'expliquerai, puis on tourne en rond. Jean nous laisse avec des mystères des fois, c'est à la fin complètement, au verset 20. Le verset 20 nous dit, « Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable, donc pour connaître Dieu. Et nous sommes dans le véritable en son Fils. » Je vais revenir sur ça tout à l'heure. C'est l'autre après. « C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. » Dans le grec, vous n'avez pas la réponse à savoir « C'est lui, c'est qui? » C'est Dieu ou c'est Jésus? De qui il parle lorsqu'il dit « C'est lui qui est le véritable? » C'est Jésus ou c'est Dieu? Si vous m'arrivez tantôt et vous êtes sûr de la réponse, vous m'excuserez si je vous envoie faire vos devoirs, c'est vraiment difficile d'avoir une certitude. Et je crois qu'à quelques reprises dans sa lettre, Jean nous laisse avec des suspens. Il va nous dire, par exemple, « Celui qui est chrétien ne pêche pas. » Si quelqu'un dit qu'il n'a pas péché, il est menteur. Ben là, décide-toi. Puis on voudrait essayer de le résoudre en français, puis on va dire, non, celui qui est chrétien ne pratique pas le péché. Dans le grec, c'est pas simple de même, c'est ne pêche pas, je suis désolé. Mais en même temps, si tu dis que tu n'es pas pécheur, tu pêches pas, tu es menteur. Tu fais Dieu menteur. Puis il y a de ces tensions-là avec Jean, il nous laisse avec un gros point d'interrogation. Jésus est Dieu le Fils d'une manière unique et incomparable. Il est la parole de Dieu qu'il nous dit dans Jean 1. Qui s'est incarné, qui est venu vivre parmi les hommes, qui était auprès de Dieu, qui était avec Dieu et qui était Dieu. Et celui qui croit au nom du Fils de Dieu, croit que Jésus de Nazareth, celui qui était un homme, était préalablement auprès du Père et qu'il s'est incarné, qu'il était Dieu le Fils qui s'est fait homme. C'est ça, croire en Jésus-Christ. C'est pourquoi lorsque je vais parler avec des amis qui me disent Non, mais tu sais, je comprends, Jésus, c'est un grand prophète, c'est un super grand prophète, mais il y en a d'autres grands prophètes aussi. Peut-être. Mais il n'y a pas d'autres fils de Dieu. Il y en a un seul. C'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Et par conséquent, si je dois prendre la parole de Jésus-Christ contre la parole d'un autre prophète, ce n'est pas une longue question pour moi. À partir du moment où j'ai connu que Jésus est le Fils de Dieu, sa parole est la vérité. Et j'écoute sa parole. Celui qui ne croit pas, nous dit Jean, n'a pas la vie. Celui qui ne croit pas au nom du Fils de Dieu n'a pas la vie. J'espère que vous comprenez, même si vous n'êtes pas chrétien, même si vous n'avez pas adhéré au christianisme, si tout ce que j'ai dit sur Jésus est vrai, il n'y a pas de vie à l'extérieur de ça, il n'y a pas de vie éternelle à l'extérieur de lui. Si tout ce que j'ai dit est vrai, si Jésus est le Sauveur du monde, si Jésus est Dieu le Fils, si Dieu le Fils est incarné dans une personne, il est mort sur la croix pour nos péchés, il n'y a de salut en aucun autre. Et celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Maintenant, la grosse question dans le passage, c'est quoi le péché qui conduit à la mort? Quoi le péché qui conduit à la mort? C'est ne pas croire en Jésus-Christ tel qu'il s'est révélé à travers les Écritures. À travers toute la lettre de 1 Jean, Jean est en train de s'attaquer à une fausse doctrine, une hérésie qui est sortie du christianisme et qui est venue enlever des morceaux à ce qu'on avait connu de Jésus-Christ et de son œuvre. Et c'est ce qu'il fait à la fin. C'est comme ça qu'on peut comprendre le dernier verset. « Petits enfants, gardez-vous des idoles. » D'où ça sort, ça? C'est quoi une idole? C'est quoi une idole? Ceux qui connaissaient l'Ancien Testament, une idole, c'est Dieu s'est fait connaître, il s'est révélé, puis j'ai dit, non, sais-tu, je vais aller m'en faire un moi-même. Tu t'es fait connaître à travers ta parole, c'est cute, c'est sympathique, mais je vais aller me faire un Dieu moi-même, un petit peu plus comme ça me plairait, un peu plus selon ma définition. Ça se peut que ce soit un morceau de bois que je viens de tailler, puis je vais dire, voici mon Dieu, ça se peut qu'il soit en or. Aujourd'hui, généralement, c'est plus des passions qui sont dans le cœur. Ce sont des désirs qui sont là, des choses qui pourraient être saines puis qui deviennent énormes dans nos vies. Mais ça peut être aussi une philosophie. À partir du moment où je dis, Dieu a parlé à travers sa parole, mais moi, je vais m'inventer un Dieu qui va être différent. Les Écritures nous disent que le Fils de Dieu, Dieu le Fils, était auprès du Père, il s'est incarné, il est venu vivre sur la terre. Non, finalement, il ne s'est pas incarné. Voici ton idole. C'est un autre Jésus que celui de la Bible. Alors, lorsque vous parlez avec des gens qui disent, non, mais on a la même foi, on croit la même chose. Où est-ce que tu vas chercher ta foi? Dans quel livre? Ben, j'ai la Bible plus ça. Intéressant. Est-ce que ça vient contredire ce que les Écritures disent sur la personne de Jésus? Toi et moi, on n'adore pas le même Dieu. On n'adore pas le même Jésus. Parce que le tien, ce n'est pas le même que le mien. Parce qu'il s'est fait connaître à travers les Écritures. Et donc, le péché qui conduit à la mort, c'est de ne pas croire en Jésus-Christ ou d'attaquer la personne de Christ puis de défaire, remettre en question, enlever des parties de la révélation que Dieu a donnée sur son Fils. C'est ça le péché qui conduit à la mort. Et ces gens-là n'étaient pas chrétiens. Est-ce qu'un chrétien peut en venir à perdre son salut? C'est pas de ça dont Jean est en train de parler ici. Il a dit plus tôt dans sa lettre, ils sont sortis du milieu de nous parce qu'ils n'étaient pas des nôtres. Ils n'ont jamais reçu l'Esprit Saint, ils n'ont jamais eu cette conviction dans leur cœur, cette onction dont nous parle Jean, qui m'amène à être convaincu que Jésus-Christ est le Fils de Dieu qui s'est incarné, le Sauveur des hommes. Ils n'ont jamais cru ça, jamais profondément, réellement. Ils sont sortis du milieu de nous parce qu'ils n'étaient pas des nôtres. Parce qu'un chrétien ne va pas commettre le péché qui conduit à la mort. Il va pécher. On peut même prier pour qu'il se repente. Mais il ne va pas commettre le péché qui conduit à la mort. Si celui qui croit au nom du Fils de Dieu a la vie éternelle, qu'est-ce que ça veut dire avoir la vie éternelle? C'est la portion qui est plus pratique dans ce passage-là. Parce que voyez-vous, Jean est en train de dire, il y a des gens qui viennent vous voir et vous disent, « Tu as cru en Jésus-Christ, c'est super cute, c'est super sympathique, mais c'est pas assez, c'est pas suffisant. » Et Jean dit, « Non, tu as déjà la vie éternelle. Tu l'as la vie éternelle. » Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça implique? Trois choses, rapidement. Avoir la vie éternelle, c'est être en communion avec Dieu constamment. Avoir la vie éternelle, c'est être en communion avec Dieu constamment. Comment est-ce que je suis en communion avec Dieu? Tout le long de sa lettre, Jean a insisté pour nous dire qu'on a reçu son esprit, on a reçu son onction. Il est là en nous, il rend ce témoignage-là en nous. Maintenant, il l'exprime d'une manière absolument sublime, incroyable au verset 20. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu, qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable, et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Si vous avez déjà lu l'Évangile de Jean, Jésus avait cette manière de parler de sa communion avec son Père où il disait « Je suis dans le Père et le Père est en moi ». Là, nous, on lit ça et on dit « Oh, j'aimerais tellement ça, vivre ça. Si, j'aimerais ça, vivre ça. » Vis ta foi. Vis ta foi. Accepte que l'Esprit de Dieu habite en toi et tu es en communion avec Dieu constamment. Si tu as cru en Jésus-Christ, je veux dire que tu as un buzz le matin et que tu te sens branché sur le 220 céleste ou non, l'Esprit est là. Il habite en toi. Et tu es en communion avec Dieu constamment. Parfois, on peut l'attrister. On peut même aller jusqu'à éteindre l'Esprit. Je suis en communion avec Dieu constamment. Il est là. Mon rapport à Dieu a complètement changé. Simplement parce que j'ai cru au nom du Fils de Dieu. Et l'Esprit de Dieu habite en moi. Deux conseils pratiques. Comment rentrer dans cette réalité-là, dans cette vérité-là pour apprendre à l'expérimenter? Au lieu de te forcer à vivre ça, apprends à te reposer dans cette vérité. Je ne pense pas qu'on goûte la communion. Laissez-moi l'illustrer comme ça, d'accord? Si je dis à Esther, mon épouse, je trouve qu'on n'est pas proche de ce temps-ci un de l'autre. Ce n'est pas en lui mettant de la pression. Ce n'est pas en exprimant une tonne d'insatisfaction. Ce n'est pas en lui disant « Comment ça se fait qu'on n'est pas plus proche que ça? Comment ça se fait que tu ne t'ouvres pas à moi que je vais réussir à le faire? » Vous savez comment je le fais? Ça va s'asseoir dans le salon. On arrête tout, deux minutes. On va aller prier ensemble. Puis après ça, on va prendre notre temps de jaser. On va aller prendre une marche ensemble. Puis on va se reposer dans cette relation-là qu'on a ensemble. Puis on va la laisser s'épanouir. On va laisser son parfum se dégager juste en passant du temps ensemble. Si dans ton cœur, tu dis, « Oui, mais Yannick, moi, ce n'est pas mon expérience. Je ne la vis pas, cette communion-là avec Dieu. » Saisis l'Évangile par la foi, puis apprends à te reposer dans cette vérité-là. Au lieu d'essayer de l'atteindre par tes efforts, puis apprends à prier. Apprends à prier. Un pasteur que j'aime énormément, Tim Keller, dans son livre sur la prière, dit c'est dans la prière qu'on apprend à expérimenter cette vérité-là du fait que Dieu est notre Père, qu'on lui appartient, qui est là pour nous. Apprends à prier. Apprends à prier. Avoir la vie éternelle, c'est être en communion avec Dieu constamment. Avoir la vie éternelle, c'est avoir beaucoup d'assurance dans la prière régulièrement. Avoir la vie éternelle, c'est avoir beaucoup d'assurance dans la prière régulièrement. On vient de le dire, c'est être en communion avec Dieu constamment. Donc, ça implique des choses. Versets 14 et 15, « Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. » C'est un des passages les plus troublants parce qu'il est concret pour nous, parce qu'on a prié, puis on a demandé des choses à Dieu, puis on a dit « Comment je peux vivre ça, cette affaire-là, Seigneur? » « Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. » Je sais que si je prie selon sa volonté, il m'écoute. Je sais que s'il m'écoute, je vais recevoir. Celui qui a la vie éternelle a beaucoup d'assurance dans la prière, régulièrement. Quand on prie selon sa volonté. Ce matin, j'étais en train de prier avec un frère pour le salut de nos enfants. Je vais essayer de faire ça rapidement, d'accord? Puis là, on avait une grosse discussion théologique. Comment on fait pour prier pour le salut de nos enfants? Est-ce que c'est la volonté de Dieu que mes enfants soient sauvés? Je vais aller dans Timothée. Dans Timothée, Paul dit de prier pour tous les hommes parce que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Mes enfants sont là-dedans, c'est sûr, donc c'est sa volonté. Qu'est-ce que je fais avec ça? Il a exprimé sa volonté. Je sais que c'est selon sa volonté. Oui, mais est-ce que c'est selon sa volonté que tous les hommes soient sauvés? Tous les hommes vont être sauvés, donc. J'ai juste à prier que tous les hommes soient sauvés. Tous les hommes vont être sauvés. Alors, on rentre dans une grosse discussion sur la volonté de Dieu. Puis, On pourrait faire 26 messages sur les décrets de Dieu, la volonté expresse de Dieu, la volonté permise de Dieu. On pourrait se lancer dans tout ça. Dieu ne veut pas que les êtres humains pêchent, mais Dieu a permis que les êtres humains pêchent. On pourrait se lancer dans tout ça. Mais vous savez quoi? Ce n'est pas ça qui va régler votre mystère dans la prière. La prière, c'est cet endroit où je m'approche de Dieu, je prends sa parole, puis je dis, « Seigneur, tu as dit ça. » Non seulement tu as dit ça, mais je comprends pourquoi tu as dit ça, parce que mon cœur bat comme ton cœur, j'ai le même désir que toi. Je veux le salut de mes enfants, parce que je sais que tu aimes mes enfants encore plus que moi. Puis tu m'as dit de prier selon ta volonté, tu as exprimé ta volonté, Seigneur. En définitive, tu vas faire ce qui est bon. Je vais m'en remettre à toi. Mais moi, je prends ta parole au mot. J'ai aucun passage dans les Écritures, Seigneur, qui me dise que tu ne veux pas sauver mes enfants. Mais j'ai un passage qui me dit que tu veux que tous les hommes soient sauvés. Puis tu m'as donné ce fardeau-là. Je vais venir intercéder. Et si vous étudiez dans les Écritures, je sais que je ne règle pas toute l'équation, là. Je suis très conscient de ça. Mais si vous étudiez dans toutes les Écritures, les hommes et les femmes de prière, ce sont des intercesseurs. C'est des gens qui viennent comme rentrer dans le conflit de Dieu. Ils viennent puis ils disent, « Seigneur, je sais que tu devrais faire ça selon ta justice, mais je connais ta grâce. Seigneur, je sais que tu pourrais faire ça, mais je connais ta bonté. Je la connais pas seulement à cause de tes Écritures, mais dans mon cœur, j'ai ce fardeau-là d'intercéder. Je viens m'interposer à quelque part. Je viens dans ce conflit-là à l'intérieur de Dieu qui s'est résolu à travers l'Évangile. Puis je viens rentrer dans cette danse-là avec Dieu. Puis je vais me promener. Des fois, je vais être rempli de foi. Ah, je vais dire, Seigneur, ta parole est claire. J'attends la réponse. Je veux voir mes enfants se convertir. Là, d'autres fois, je suis pris avec la réalité de leur péché, puis je les regarde aller, puis je me dis, mes amis ont le cœur tellement dur. Je retourne à l'Évangile, puis je dis, ouais, mais j'avais le cœur aussi dur qu'eux. Ta parole, c'est quoi, Seigneur? Je prie selon ta volonté. Et pour moi, c'est ça, être mature dans la foi, dans la prière, puis être capable de dire, en définitive, que ta volonté se fasse. Souvent, lorsque les chrétiens disent, non pas ma volonté, mais la tienne, ça veut dire qu'ils ont zéro foi, c'est juste ça. Mais il y a une place, pour dire, Seigneur, tu es bon. Moi, je vais réclamer ta parole, puis je veux la voir se réaliser. Je vais réclamer tes promesses, je veux les voir se réaliser pour ta gloire, Seigneur. Pour ta gloire, Seigneur. Et celui qui a la vie éternelle a une grande assurance lorsqu'il va dans la prière. Régulièrement. Et il voit un grand nombre de ses prières exaucées. Pas toutes. Parce que Dieu nous sanctifie à travers la prière. Dieu nous dit d'attendre. Des fois, Dieu nous dit non. Des fois, on n'a pas discerné sa volonté. On ne connaît pas le grand plan de Dieu. Et celui qui a la vie éternelle a une grande assurance lorsqu'il va dans la prière. Régulièrement. Dernièrement, avoir la vie éternelle, c'est triompher du péché, du diable, du monde, quotidiennement. 1 Jean 5, 3 à 5, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Du monde, on l'a déjà vu, hein, c'est dans le sens des principes du monde qui vont à l'encontre de la parole de Dieu, c'est de ça dont on parle ici. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Jean nous dit que celui qui a la vie éternelle triomphe des principes du monde, marche dans les voies de Dieu quotidiennement. Les commandements de Dieu ne lui sont pas pénibles. Tu donnes ta vie à Jésus-Christ, tu crois en lui pour ton salut, puis tu commences à grandir dans ton cheminement, puis tu penses que tout est réglé, tout va bien, il n'y a comme plus de combat. Ouh, c'est cool croire en Jésus, avant je faisais ça, je ne fais plus ça. Ouh, c'est super powerful cette affaire-là, j'aurais voulu trouver ce stock-là avant. Là, après 3 mois, 6 mois, il y a des vieilles affaires qui reviennent, qui refont surface. Là, tu dis, je pensais que c'était réglé. Puis là, tu embarques dans ce combat-là, puis tu continues dans ce combat-là, puis tu vas d'échec en échec. Puis à un certain moment donné, ton discours intérieur, c'est que l'Évangile n'est pas assez grand pour que tu marches dans la sainteté. Voyez-vous, la difficulté avec Jean dans sa lettre, c'est qu'il nous dit, pour être sauvé, tu as besoin d'une seule chose, croire en Jésus-Christ. Puis je ne veux jamais que tu doutes de ton salut si tu crois en Jésus-Christ. Il faut que tu aies l'assurance de ton salut. Fait qu'il veut nous rassurer. Puis après ça, il nous dit, si tu es sauvé, ben, tu es en communion avec Dieu, tu as des réponses à tes prières. Si tu es sauvé, les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Là, tu reviens de voir et tu dis, mais donc, je pense que je ne suis pas sauvé. J'ai souvent dit à l'Église, la première lettre de Jean, c'est le livre de la Bible qui me trouble personnellement le plus. Parce que chaque fois que je la lis, je doute de mon salut. C'est vrai. C'est vrai, là. C'est pas pour la forme que je dis ça. Parce que Jean dit, c'est super facile. Tu as juste à croire. Si tu crois, arrête de stresser. Mais by the way, il faut que tu vives vraiment différemment. Bien là, tu m'as dit que c'était facile. Moi, je ne trouve pas ça facile. C'est encore une des tensions qu'on trouve dans la première lettre de Jean. Et ce que je vous demande de faire ce matin, c'est de croire dans l'Évangile. Si ça fait des années que vous marchez dans la foi, il y a un discours intérieur qui s'est probablement installé sur des domaines dans votre vie où vous ne croyez plus dans la puissance de l'Évangile. Dans la puissance de celui qui vous a sauvé. Vous ne croyez plus. Vous avez abandonné de combattre, vous vous laissez aller au péché. Tournez vos regards vers Christ. Je vous donne quelques conseils pratiques rapidement. Face à tes péchés, face à tes luttes, face à tes combats, regarde toujours plus à Christ qu'à toi. Si tu es découragé par tes péchés, ce n'est pas parce que tu regardes à Jésus, je te le garantis. Ce n'est pas parce que tu regardes à l'Évangile, c'est parce que tu regardes à toi. Et la voie pour te relever, te repentir, demander encore à Dieu, continue l'œuvre que tu as commencée en moi. Continue à me sanctifier, à me transformer. Ça ne se trouve pas en toi, ça. Ça se trouve en Christ, en Jésus-Christ. Fait que si tu veux vivre cette réalité-là, que les commandements de Dieu ne sont pas pénibles, regarde toujours plus à Christ qu'à toi. Si tu es découragé, c'est parce que tu ne regardes pas à Christ. Lorsqu'on regarde à Jésus-Christ, ce qu'on voit, c'est sa grâce. C'est son œuvre. Ce sont ses mérites à la croix, pas mon œuvre à moi. On est sauvé par grâce, mais on pense qu'on va se sanctifier par les œuvres. Premier conseil, regarde toujours plus à Christ qu'à toi-même. Saisis chaque jour cette identité-là que tu as en Jésus-Christ. Je sais que je suis tannant avec ça. Je vous dis que je révise l'Évangile à tous les jours. Je l'ai fait ce matin. Ce n'est pas parce que je m'en viens prêcher, puis je fais ça le dimanche matin, puis j'ai les quételles, puis j'ai peur de me présenter devant vous. Presque tous les matins de ma vie, je révise l'Évangile avant de me lever le matin. Souvent en me couchant le soir. Parce que j'ai besoin de me rappeler que mon identité à moi, c'est l'œuvre de Christ qui m'est donnée. Mon identité à moi, c'est pas, il y en a qui est super, il est capable, il est bon, il est correct, tout va bien aller. Chaque fois que je fais ça, je suis découragé. Ah, peut-être que je vais me prendre au sérieux pour 3 minutes et quart, tu sais. Wow, la preach a bien été, je débarque, puis man, Seigneur, je pense que j'ai scoré ce matin. Je viens de pécher. Par orgueil. Là, je me dis, OK, t'es minable, man. Tu penses que c'est ton œuvre, tu sais. J'ai regardé à moi, la gloire 30 secondes, je me sens poche après. J'ai besoin de réviser l'Évangile et me rappeler que mon identité, c'est l'œuvre de Christ en ma faveur. Apprenez à vivre ça quotidiennement, pas le dimanche matin, pas quand tout va mal. Quotidiennement, saisis ton identité en Jésus-Christ. Repens-toi encore et encore et encore. Le jour où tu n'auras plus besoin de te repentir, tu ne seras plus sur la terre ou tu vas être un hérétique. Tu as 2 options. D'accord? Tu vas enseigner des fausses doctrines parce que tu n'as plus besoin de te repentir ou tu n'es plus sur la terre. Mais autrement, tu as à te repentir. Si ce n'est pas tous les jours, c'est toutes les heures. D'accord? Repens-toi encore, encore et encore. Et puis enfin, de manière pratique, ce que Jean nous enseigne sur la prière ici, c'est qu'on n'y arrivera pas tout seul. Jean dit, si tu vois un frère qui a commis un péché qui ne conduit pas à la mort, il n'a pas renié Jésus-Christ, mais il y a un péché dans sa vie, prie pour lui. Prie pour lui, Dieu va le relever. Mon dernier conseil pratique, c'est que tu n'y arriveras pas tout seul. Si tu n'es pas dans une assemblée, si tu n'es pas membre d'une église locale, puis cet été tu te promènes un petit peu, super, dépêche-toi à t'intégrer dans une assemblée. Si tu es dans l'église ici, puis tu n'arrives pas à être en communion régulière avec tes frères, ce n'est pas juste le dimanche matin, que ce soit en t'impliquant dans un petit groupe, en t'impliquant dans un ministère, mais un endroit où vraiment tu vas pouvoir connecter. Tu vas pouvoir partager tes combats, tes luttes pour que les gens autour de toi, les frères et sœurs, puissent prier pour toi. Tu te prives d'un des moyens de grâce essentiels de la vie chrétienne. Va partager ces combats-là, ces luttes-là. Et si tu vois un frère, une sœur qui est en lutte avec un péché, prie pour lui, prie pour elle. Dieu va le relever. Dieu va le relever. Jean, c'était un gars qui avait une idée fixe. Je termine avec ceci. Tournez avec moi dans l'Évangile de Jean, d'accord? Au chapitre 20. Jean, c'était pas un créatif avec une tonne d'idées. C'est un gars avec des idées assez simples, assez continues, assez répétitives. Dans 1 Jean, il nous a dit, « Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. » Il parle aux chrétiens, puis il leur dit, « T'as cru, tu l'as. Vis-la maintenant. Rentre dans cette vie-là. Pour l'éternité. Dès maintenant, pour l'éternité. » Puis dans l'Évangile de Jean, il nous dit, Jean 20, 31, « Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. » Alors, si tu dis, c'est intéressant, mais je ne pense pas que je suis rendu là, je ne pense pas que je suis chrétien. Ben, peut-être que ce n'est pas 1 Jean qui est pour toi. C'est l'Évangile de Jean. Parce que Jean a écrit un évangile où il raconte l'histoire de Jésus. Et tout ce livre-là, il l'a écrit dans un seul but. C'est qu'en connaissant qui est Jésus-Christ, tu puisses croire en lui et que tu aies la vie éternelle. Un bon point de départ après la série de 1 Jean. Si tu n'as pas la certitude que tu as la vie éternelle, que tu es en communion avec le Fils de Dieu, ce serait d'aller lire cette semaine l'Évangile de Jean. Prends l'été, va lire ça. Pose des questions à des chrétiens. Tout ce que tu trouves bizarre, weird, puis qu'il n'y a pas d'allure, amène-nous-les, on aime ça. On en bouffe de ces discussions-là. Ça nous fait plaisir. Parce qu'on prie pour que tu connaisses Jésus-Christ. Mais si tu as cru en Jésus-Christ, tu n'as plus aucune raison de douter que tu as la vie éternelle maintenant. Tu n'as surtout aucune raison d'aller chercher ailleurs d'autres choses qui pourraient s'ajouter à l'Évangile, d'autres révélations qui pourraient venir compléter la personne de Christ. Tout est là en Jésus-Christ. Ça se peut qu'avec les années, tu en sois venu à dire, la vie éternelle, je pense que ça commence à la fin du monde, comme nous a dit la petite fille ce matin. La vie éternelle, si tu as cru en Jésus, est déjà commencée. Parce que l'Esprit de Dieu est en toi. Tu as juste à entrer dans cette vie-là par la foi. Puis quand tu pètes la gueule avec tes péchés puis avec tes luttes, arrête de regarder à toi. Regarde à Jésus-Christ. On va prier ensemble. Père éternel, ça a été une bénédiction pour moi d'étudier cette lettre-là encore une fois. Je n'ai pas tout compris encore, Seigneur. Il y a des versets qui j'ai vraiment hâte de prendre un café avec Jean. Je vais lui demander quelques minutes parce qu'il y a des morceaux que je ne catche pas pantoute dans son écriture. Mais j'ai compris l'essentiel, Seigneur. J'ai compris l'essentiel. En Jésus, j'ai trouvé mon Sauveur, j'ai trouvé mon Seigneur, j'ai trouvé mon Dieu. Parce que j'ai cru en toi, Jésus-Christ, j'ai reçu la vie éternelle par ton Esprit qui est venu faire sa demeure en moi. J'étais pécheur, Je suis maintenant pardonné. Je tombe encore souvent, Seigneur. Je tombe encore trop souvent, Seigneur. Parfois, c'est tellement décourageant que je doute de mon salut. Mais j'ai appris avec les années, Seigneur, après plus de 20 ans de vie chrétienne, que lorsque je suis découragé, c'est parce que je regarde à moi au lieu de regarder à toi, Jésus. J'ai appris à lever les regards vers toi, Jésus-Christ, et à entrer dans cette vie, avec la conviction que le Père est là, intimement en communion avec moi, et que les troubles de ma foi, les doutes de ma foi, les combats de ma foi, on va les résoudre ensemble, dans cette intimité-là que je vis avec toi dans la prière. C'est en Jésus-Christ qu'on ne prie pas. Amen. Amen.